On vient de parler avec M. Daniel Jean de bonnes nouvelles et de choses qui font du bien. Ah bien, on va continuer dans cette veine-là. On va parler de sexualité. Sexualité et handicap. Et pour en parler un peu plus davantage avec nous, j'ai Mme Gwendoline Lutti. Bonjour, Mme Lutti.
Bonjour. Merci.
Vous êtes sexologue experte pour les personnes en situation d'handicap et vous travaillez, vous êtes membre de l'organisme Les Trois Sexes, qui est un organisme communautaire qui voit à démystifier et à éduquer. Sur toutes sortes de sujets reliés à la sexualité. Et vous avez participé à la relecture du guide Sexualité Handicap, guide qui a été publié tout récemment par le Centre d'intégration à la vie active, le CIVA. Et ce guide-là a été, je pense, très bien accueilli dès son lancement.
Oui, absolument. De ce que j'ai entendu, j'ai vraiment entendu des bons échos, mais surtout, en fait, qu'il y a plus de demandes que celle qui s'en occupe, qui s'occupe du projet, en fait, Carole Froment pouvait l'imaginer. Donc, c'est vraiment, vraiment très, très, très positif.
Ben, moi, j'ai entendu parler qu'il y avait 4300 exemplaires là qui étaient sortis assez rapidement des tablettes. La bonne nouvelle, c'est que c'est aussi maintenant disponible en format numérique sur le site du CIVA et c'est gratuit. Ça, c'est important de le dire.
Oui.
Vous en avez fait la relecture, puis c'est sûr que quelqu'un qui voit ça de l'extérieur, sexualité et handicap, voici deux thématiques qui sont souvent... entouré de tabous, et si on les met ensemble, là, c'est pire. Voilà. Hein? Alors, il faut normaliser tout ça.
Absolument, absolument. Vous avez tout à fait raison. C'est une particularité des personnes en situation de handicap. On ne parle jamais de sexualité avec cette population-là parce qu'il y a plein de raisons à ça. Hein, la présomption que la personne est asexuelle parce qu'on a beaucoup associé le handicap à l'incapacité d'avoir des relations sexuelles parce qu'on voit la sexualité sous un seul angle, c'est celui hétéronormatif, donc dans lequel l'homme pénètre la femme, alors qu'en fait la sexualité
c'est beaucoup plus large.
C'est beaucoup plus large
beaucoup,
que ça,
beaucoup plus
oui,
large.
Évidemment. Ouais.
Et c'est ça. Alors, évidemment, le préjugé courant dans l'esprit de la population, et presque tout le monde va réagir de cette façon-là, je dis, si la personne est handicapée, elle ne peut pas. Si elle ne peut pas, ça n'a pas d'importance. Hein? Voilà.
Exact.
Ça, là, on
Absolument.
Est rendu vraiment, à contrario, et ce n'est pas ça du tout.
Non, c'est pas ça.
Et le guide, justement, aborde plusieurs aspects de la sexualité, et justement pour... petit à petit faire une éducation qui, à prime abord, est destinée aux personnes aidantes.
Oui, exactement, parce que c'est sûr que ce qu'il y a de particulier pour les personnes en situation de handicap, c'est que souvent, les personnes aidantes sont des proches donc de la famille, un conjoint, une conjointe, un partenaire. Ça peut être des personnes proches. Et puis pour ces personnes-là, c'est encore plus difficile de parler de sexualité dans le cas de leurs proches, évidemment. Donc, c'est important de donner à ces gens-là aussi de l'information pour qu'ils puissent avoir tous les outils en main pour accompagner leurs proches en situation de handicap, en fait.
Et dans ce guide, si je peux dire, là, vous prenez les choses comme, dans un ordre un peu logique. Hein?
Oui.
Vous parlez d'abord de l'intimité.
Oui.
Et parce que ça peut être difficile pour une personne en situation d'handicap là, qui a besoin d'aide pour certains gestes, quotidiens, là, se vêtir, se laver, ainsi de suite. Et là, il faut être capable d'établir des frontières.
Exactement, c'est de savoir qu'est-ce qui revêt de l'intimité sexuelle, qu'est-ce qui revêt de l'intimité, comme vous avez dit, d'une personne qui m'aide à m'habiller ou d'aller aux toilettes. En fait, elle est où la frontière entre ces deux sortes d'intimité qui sont vraiment extrêmement différentes? Parce que c'est sûr que l'intimité sexuelle, elle va avoir... on va prendre en ligne de compte le désir, la libido, on va prendre la sexualité, c'est beaucoup de choses, comme on l'a dit tantôt, c'est parler d'orientation sexuelle, d'identité de genre, par exemple, de consentement aussi. Il y a vraiment, vraiment beaucoup de thématiques qui rentrent en ligne de compte là-dedans.
Oui, puis vous allez, en fait, dans le guide, il est question de tout ça. Il est question de l'éveil, parce que là, on peut penser à l'adolescence au moment de la vie où une personne prend conscience de sa sexualité. Puis là, ça amène des questions d'identité. Parce que là, encore une fois, c'est un autre préjugé. Là, il ne faut pas penser que les personnes en situation d'handicap n'ont que nécessairement qu'une seule identité, ou que ce soit la même pour tous ou toutes.
Absolument. C'est vraiment cette vision normative que tout le monde est hétérosexuel, tout le monde s'identifie au genre qui lui a été attribué à sa naissance. Donc, c'est vraiment comme ces préjugés-là qui font que ces questions, en fait, se posent encore moins chez les personnes en situation de handicap, puisque, évidemment, il y a la présomption que...
on suppose que toutes les personnes en situation de handicap sont cisgenres, hétérosexuels. Oui. Cisgenres, ça veut dire qu'ils ont le même genre que celui constaté à la naissance, qui sont hétérosexuels et que de toute façon, ils ne peuvent pas. Alors maintenant, ils ont comme mis une croix là-dessus puis ils s'en foutent.
Voilà.
Ouais, c'est terrible de penser comme ça.
Alors que non, il y a des exemples. Hein. C'est ça aussi qui est une difficulté pour cette population-là, c'est que c'est des personnes qui sont peu représentées médiatiquement. Donc, on a peu d'exemples positifs, en fait, hein, de personnes en situation de handicap qui ont une vie sexuelle épanouie. Mais il y en a, hein, par exemple, je vais souligner la série Special, qui je pense qu'elle est sur Netflix, qui est un homme avec une paralysie cérébrale. Et puis, lui, il est homosexuel. On le voit, en fait, par exemple, danser... Dans sa vie quotidienne, naviguer en fait dans cette identité de personne en situation de handicap et cette identité de personne homosexuelle.
Comment s'appelle la série, vous dites?
Spécial.
Ah, spécial. Oui, tout à fait.
Avec Ryan O'Connor.
Oui,
très,
voilà,
très bon,
voilà,
très bon.
Exact. Ouais. Ben, il y a aussi quelque chose qui est malheureux, qui est important dont il faut parler, c'est les violences et les abus. Parce que les personnes en situation de handicap sont 3 à 4 fois plus susceptibles d'être victimes de violences ou d'abus sexuels. Et là, on parlait tout à l'heure du type d'intimité qu'on peut avoir avec la personne proche aidante ou préposée qui nous aide dans les gestes quotidiens. Et c'est là que souvent ça dérape.
Oui, absolument. Il peut y avoir des enjeux, en fait, une dynamique de pouvoir hein, entre la personne aidée et la personne aidante. Donc, la personne qui est en situation de handicap peut dire ah, ben, j'ai pas le choix d'accepter parce que sinon la personne ne va pas me donner les soins dont j'ai besoin. La personne va me refuser de m'emmener à la toilette, de me donner mes médicaments.
Exact. C'est un chantage ignoble.
Oui, absolument, absolument. Puis, il y a le fait aussi que, justement, le manque d'éducation à la sexualité, si la personne en situation de handicap n'a pas eu d'éducation à la sexualité, on ne lui a pas expliqué c'était quoi le consentement, qu'elle a le droit de dire non, que le consentement, il faut qu'il soit clair, enthousiaste et libre. Mais la personne ne va pas se dire mais non ben j'ai pas le droit de refuser que la personne me touche ou etc en fait
ouais. Oui et il faut donc évidemment il faut être conscient de ses droits et des limites si on veut pouvoir exercer ses droits puis si on peut être capable de défendre les limites
et là
la privation d'éducation sexuelle sous prétexte que la situation d'handicap rend toute personne asexuée et indifférente.
Oui.
Parce qu'on peut être asexué, mais on ne veut tout de même pas être agressé.
Non,
de toute manière.
Exact. Parce que l'asexualité, donc l'apostrophe asexualité, c'est une orientation sexuelle comme
d'autres.
Comme d'autres, exactement. Puis ça fait partie aussi hein, de ce qui est possible de retrouver dans cette population-là. C'est juste que c'est pas automatique. Ça doit
ben,
pas
je vous remercie beaucoup, Mme Lutti. C'est
avec
un sujet sur lequel on va certainement repasser parce qu'on n'en parle pas suffisamment, point à la ligne. Et je vous remercie d'avoir collaboré au livre ou manuel Sexualité Handicap du CIVA. Merci, à bientôt.
À bientôt, merci.